Radio G 101.5 FM.
Yeah. What's up? Mm-hmm. Nigga. Yeah, it's me. Yeah. I'm back, baby. Cut that.
Mardi, ce n'est pas seulement ravioli. Mardi, c'est l'instant fatidique, le point de non-rupture, le moment où vous vous installez tranquillement, quoique avec beaucoup d'émotion, pour écouter votre radio préférée et cette émission haute en couleurs, haute en frissons, enfin haute en noirceur. Vous êtes bien à l'écoute de Radio G sur le 101.5 FM et vos habituels complices sont avec vous, Linda, Luc, Toups et votre serviteur zélé Julien. Bonjour les amis.
Bonjour.
Bonsoir.
Oh, vous êtes d'humeur taquine ce soir, je le sens. C'est l'heure de Calibre 58, une émission de bien mauvais genre. Et maintenant, générique, maestro.
From one gutter to another. You can't help anything you do, even murder.
You can't say it was that.
I can say one thing. I buried him. What did you tell him?
Well,
about us? But you couldn't help it, could you, Cap?
He knew it, Jeff. He looked right into me and he knew it.
How much?
What, Jeff?
I mean about Fisher. Did he look into you for that, too?
No, I didn't tell that.
Don't lie to me.
I didn't. I wouldn't tell him that. I wouldn't tell anyone that. I swear it, Jeff. Believe me.
Sure, I believe you.
I didn't know what to do. I was always afraid of him and afraid of what I'd done. I couldn't live that way anymore. I couldn't stand it. Oh, Jeff, I've missed you. I've wondered about you and prayed you'd understand. Can you understand?
You prayed, Kathy?
Can't you even feel sorry for me?
I'm not going to try.
Jeff.
Look, just get out, will you? I have to sleep in this room. Let's just leave it where it all is. Get out.
Écoutiez un extrait d'une discussion désabusée entre Robert Mitchum et Jane Greer dans Out of the Past de Jack Turner. On ne reviendra pas sur ce film qui est un chef-d'œuvre du film noir. Un must, un what else. Bon, d'accord, tout à l'heure on vous causera aussi de ces autres must et autres what else qui, somme toute, sont quand même quelques-uns. In the casting d'Out of the Past, on doit rajouter, bien entendu, Kirk Douglas et Stephen Brody au couple Robert Mitchum et Jan Greer. Le scénario a été principalement écrit par Daniel Manwaring, qui n'a rien trouvé de mieux que d'utiliser la matière qu'il avait collectée pour en faire un roman sous le nom de plume de Paul Buck. De quoi est-il question dans ce roman ? De tout ce qui fait la puissance mythologique du roman noir et par effet de capillarité du film noir. Un homme, dont on ne connaît que très peu la vie, quadragénaire, a débarqué il y a quelques années dans une petite bourgade. Il a repris un garage, à un assistant sourd-muet qui n'est pas Bernardo, je tiens à le préciser. Il aime pêcher et est aimé par une jeune femme d'une vingtaine d'années, sa cadette. Alors bon, le fait qu'elle soit d'une vingtaine d'années sa cadette n'entre pas dans ma définition de la puissance mythologique du roman noir.
Qui n'est pas Emma Bovary, tu tiens à le préciser aussi ?
Qui n'est pas Emma Bovary, qui, elle, serait de 20 ans son aînée.
D'ailleurs.
En revanche, le fait qu'elle soit de 20 ans sa cadette, cela permet à l'auteur de la placer à la fois dans une situation de naïveté, amplifiée par les sentiments qu'elle ressent pour cet homme, et conflictuelle avec ses parents, surtout qu'elle travaille pour papa. Cette femme est par ailleurs un objet de fascination et donc de convoitise pour un garde forestier. Mais revenons à notre homme, tout en notant au passage que cette trame inaugurale n'est guère éloignée de la nouvelle Les Tueurs d'Hemingway, qui a donné un autre must ou un autre what else au choix cinématographique.
Je vais finir par avoir envie de café, moi.
C'est ça. T'es amoureuse de...
Comment ? Non, mais t'es dans le thème, hein. Sans le savoir, tu vas voir tout à l'heure,
On est toujours dans le thème. Donc, le passé ressurgit, et il est violent. Il est violent car l'homme qui a refait sa vie est un ancien détective privé engagé un jour par un malfrat pour retrouver une femme fatale qui s'est fait la malle au Mexique avec 50 000 $. Autre film au passage, ça commence à Veracruz. Avec, Robert Mitchum et Jane Greer, qui décidément aiment bien le Mexique. Et s'il l'a retrouvée, cette femme fatale, il est surtout tombé sous son charme avant que d'être trahi. Bon, il faut dire que la trahison, c'est un peu l'arme trouvée par les femmes fatales pour s'émanciper d'un monde patriarcal. Sur ces entrefaites, il plombe accidentellement son ancien associé, l'enterre et disparaît. L'histoire prouvera que les cadavres du placard peuvent aussi sortir de terre. Et il va être contraint, pour se sortir, lui, d'un piège, d'user d'intelligence et de violence. C'est un roman noir. Il ne peut y avoir de fin heureuse. Mais le roman est parsemé de petites touches éblouissantes. Surtout, son auteur montre qu'il connaît bien l'esprit humain. Il y a cette touche très intéressante et comportementaliste. Il y a aussi cette force vaine de rédemption. C'est pourquoi ici, on parle de puissance mythologique, car le destin... ce qu'on pourrait appeler un peu sobrement le fatum sans pathos.
Bravo.
Waouh, t'as vu ça, Luc ? Il tient une place prépondérante et implacable. C'est sûrement un peu tout ça qui a convaincu Jack Tourneur de réaliser le tournage de ce film. La collection Rivage Noir est truffée de ses romans adaptés ou écrits a posteriori d'un film, novélisé quoi, magistralement. Je me souviens qu'elle abrite quelques petits bijoux romanesques. Je ne sais pas si toi, Luc, tu as lu des romans de Samuel Fuller.
Oui, je crois, mais il y a très très longtemps.
Un homme du cinéma qui mériterait au moins une émission entière sur cette antenne.
Nous t'attendons, Julien, là-dessus.
On m'attend là, comme ça. Mais si je disais Richard Fleischer, Fritz Lang, John Ford, on pourrait aussi...
On peut y aller, vas-y, tu as ton stock d'émissions à venir.
C'est cool. Tiens, John Ford, on en recausera dans une seconde chronique tout à l'heure. Mais... je pense qu'il est temps de quitter les éditions Rivage, le Mexique et la côte ouest des États-Unis. Je redonne le nom du roman dont j'ai parlé tout à l'heure, « Pendez-moi haut et court » de Geoffrey Holmes chez Rivage Noir, et surtout « Les tueurs de la lune de miel » de Paul Buck, que je vous recommande également. Il semblerait que Scorsese ait été prévu pour réaliser un film qui a été réalisé sans lui. Et Scorsese, on en reparle en fin d'émission parce qu'il a fait un truc plutôt pas mal là dernièrement.
Oui.
Voilà, donc c'était pour dire ça. C'est les éditions Rivage en général, les premiers, parce que là, il est question du numéro 93 et du numéro 175. Ils sont franchement pas mal. Mais bon, je me tourne vers quelqu'un d'autre. Alors Linda, vers quelle contrée littéraire vas-tu nous emmener cette semaine ?
Ta ta ta.
J'ai cru entendre comme un petit accent argentin sur fond de tango.
Mais oui, cette semaine nous sommes en Argentine. Alors quand on pense Buenos Aires, on entend là
le tango.
Carlos Gardel. Avec un tango sensuel et classe qui a été nettoyé par un aller-retour dans les salons bourgeois parisiens, avec un abrazo plus convenable et des femmes plus convenables aussi.
C'est quoi un abrazo?
Bah, vous savez ce que c'est un abrazo.
Dame un abrazo.
Dame un abrazo.
Un brasero.
Non, ça c'est une grosse blague. Alors l'abrazo, Julien, tout à l'heure tu me disais ça veut dire...
Accolade, non?
Eh ben,
une étreinte.
Voilà, c'est ça. Et en tango, en fait, l'abrazo, c'est la façon dont les partenaires se tiennent l'un l'autre. Et donc, dans le tango qu'on entend là, il y a quand même on met une distance assez convenable. Alors que dans la milonga, il n'y a pas la place, en fait. Donc, on est bien collé serré. Parce que le tango, n'oublions pas, c'est une danse des bas-fonds au départ. Hein. On a les gauchos désœuvrés, la musique candombe des Africains. Arrivés à l'issue de leur plein gré, avec contradanza des colons, habanera des Cubains, polka, zigane des immigrés européens, entre hommes d'abord, hein, ou avec des putes, faute de femmes, sont des joutes ouvertement viriles et sexuelles. Autant vous dire que la pratique était condamnée par l'Église. Et d'ailleurs, c'est plutôt ce tango-là, hein, l'ambiance façon Oyola, parce que je vous parle d'un roman de Leonardo Oyola, qui lui fait plutôt allusion au rock des déshérités. Alors là, s'il te plaît, Luc, tu peux nous mettre d'autres morceaux, parce que Oyola, voilà, il cite lui plutôt sa Guessones. Vous pouvez entendre, c'est un groupe de rock, hein, argentin.
Là, je sens bien la brasso, là.
Nous entendons Estrellas de l'album Como Animales. Bon, franchement, moi je trouve ça gentil parce que à la lecture du roman, ça sonne plutôt. Moi ça me parlait plutôt genre ACDC, vous voyez ? Genre c'est bien, mais ça fait saigner les oreilles.
ACDC ne fait pas saigner les oreilles.
Ah, c'est bien fort, ça crie, ça remue un peu plus quoi.
C'est du rock.
Oui, et donc.
Je n'irai pas sur ce débat.
Mais c'est pas négatif dans ma bouche, c'est juste que là je trouve ça très gentil par rapport au roman et que moi je le sentais plus ambiance ACDC quoi. D'ailleurs je vous rappelle, merci Luc, je pense qu'on a compris, le titre c'est Golgotha, autrement dit le lieu du crâne ou le mont du calvaire, là où selon les évangiles Jésus aurait été crucifié, bim, direct, souffrance, destin inexorable et bonne chance. Vous sentez le poids de la croix là, qui charge vos épaules ? Je vous confirme, ça ne va pas être drôle. Autant vous achever tout de suite avec l'intrigue. Un flic détruit raconte sa chute. L'événement déclencheur, une gamine de 14 ans meurt d'une hémorragie dans les bras de sa mère, elle-même âgée d'à peine 30 ans. Un avortement raté, la guérisseuse qui refuse de porter secours à une mécréante ayant porté atteinte à une créature de Dieu. La mère se pend, le tout dans un quartier de Buenos Aires aux mains d'un gang, favela version argentine. Voilà, voilà. Il y a toute une réflexion sur la responsabilité ou culpabilité des hommes qui laissent des filles mères à droite à gauche, les femmes se coltinant seules, les conséquences de l'acte originel de jouissance. Ce qui m'a fait penser à une discussion avec mon voisin. Oui, tout à fait.
Moi ?
Non, mon voisin de maison. Nous discutions à propos de chats qui avaient élu domicile dans mon jardin. Et plus précisément du problème des femelles qui se reproduisent comme des petits pains. Et il me confiait donc son envie de conserver un matou supplémentaire, un mâle. Alors, inquiète de la surpopulation en félidés déjà prononcée dans le quartier.
14 millions en France.
17. Je lui demandais s'il comptait le stériliser, ce à quoi il me répondit « Le problème, c'est pas le mâle, c'est les chattes quand elles sont grosses. » Entendons-nous bien, hein, que je sens poindre une équivoque dans vos regards, oui. Il entendait par chatte la femelle du chat. Tout d'abord interdite, je lui rétorquais cependant « N'est-ce pas le mâle qui SM ?» Fin de la discussion. Bon, maintenant je vous propose un petit instant réflexion sur la thématique maîtresse du roman. De l'importance implacable de nos racines. Peut-on se couper d'elles ? sont-elles vitales ou sans importance, ni plus ni moins que le parcours qu'on se fabrique grâce aux rencontres fondamentales. Ces rencontres qui forgent notre vie, j'appelle ça les personnes piliers, celles qu'on choisit pour se construire, qui ne sont pas forcément la famille ou les amis du début, de l'environnement d'arrivée au monde. Est-ce que, quoi qu'on fasse, on est toujours porteur de l'endroit d'où l'on vient, celui qu'on incarne, celui que l'autre pense qu'on incarne? La force tragique du sentiment d'appartenance peut nous pousser à quoi? Jusqu'où? Lyncher un gars et le laisser crever à petit feu attaché sur une croix, par exemple? Ou plus simplement pendu dans un arbre, tel un fruit sanglant? Sur ce, je vous propose de retrouver notre Argentine carte postale avec una historia de amor, parce que c'est foutrement beau et la beauté, ça fait du bien.
Más a mi lado, corazón, en el alma solo tengo soledad. Y si yo no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión. Y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Es la historia de un amor como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el bien, todo el mal, que le dio luz a mi vida, apagándola después. Ay, qué vida tan oscura, corazón, sin tu amor no viviré. Ya no estás más a mi lado, corazón, solo tengo soledad.
Eh bien, merci Linda pour cette chronique dépaysante et toute empreinte de douceur. Enfin, je veux parler, bien entendu, de ta chronique. Vous êtes toujours à l'écoute de Radio G sur le 101.5. What else? Avec Calibre 58. Et c'est maintenant l'heure de causer film noir. Et quel film noir? Comme l'avait déjà annoncé Toops lors de la dernière séance. C'était la dernière séance, c'était la dernière séquence. Mmh. Nous allons parler de films d'Otto Preminger. Grand monsieur du cinéma issu des impressionnistes allemands comme Fritz Lang et qui a connu une grande vie cinématographique allant du muet à la couleur. Alors, commençons. Et commençons avec Max Dixon, détective privé. Et donnons la parole à Luc.
Déjà, si juste pour résumer un peu le film, hein, il s'agit d'un policier qui est sanctionné par sa hiérarchie. Qui est présenté un peu comme un chien fou, mais je reviendrai sur l'image, comme un chien fou, et ce policier commet une bavure, il tue un voyou au cours d'une enquête qu'il mène parallèlement. Et il va maquiller le meurtre pour faire porter la responsabilité sur d'autres voyous. Quand je parle de chien fou, c'est, ça peut paraître un peu paradoxal, mais on est face à un policier qui est quand même hyper clean. Je n'ai jamais vu quelqu'un de rasé d'aussi près que... comment il s'appelle ?
Dana Andrews.
Dana Andrews, voilà. C'est un superbe film. C'est un magnifique film. C'est un vrai polar noir avec d'abord une copie qui est extraordinaire et toutes les turpitudes d'un individu qui se trouve pris à son propre piège, qui va tenter d'y échapper et qui va y échapper d'une manière magnifique tout à la fin.
Alors, il faut dire que c'est un film qui est réédité par Carlotta et qu'il retravaille les masters pour avoir un très joli noir et blanc. On peut le signaler, la copie est belle. Vous en pensez quoi ?
Que la copie est belle.
Que la copie est belle et du film.
Alors, moi, j'ai du mal avec la direction, justement, de ce personnage. J'ai pas réussi à croire à ses élans au départ de violence. Au niveau du jeu, la direction de jeu, quoi. Et du coup, j'ai eu du mal à prendre ce wagon. Et puis après, il y a un truc complètement subjectif qui n'a rien à voir avec la...
C'est pas un western, pourtant.
Qualité du film. Oh, je suis désolée, mais je me suis un peu ennuyée, en fait.
Oh là là, quelle désolation, s'ennuyer devant ce film-là.
Ben oui, mais tu vois,
avec
tous les goûts sont donnés à la nature.
Un truc qui est extraordinaire, c'est les arrière-plans du film. Mmh. Il nous emmène dans une promenade à New York. On a les vues sur le pont de Manhattan, on a les vues sur l'hôtel de ville de New York, on a les vues sur la skyline. J'ai jamais vu un film qui, dans son arrière-plan, nous mettait autant en présence d'une ville. Et ça, il réussit à faire parfaitement. Mais voilà, je laisse la parole aux autres.
Après, encore une fois, je ne dis pas qu'il n'y a pas de travail. Au contraire, alors si un truc auquel je fais vraiment, vraiment attention, c'est de commencer par dire, effectivement, l'accueil du travail qui est fait dessus. Par contre, il y a une esthétique, ça, je ne le nie pas du tout, mais je n'ai pas été touchée. Voilà. J'ai passé la balle sur ma gauche, en fait.
Oui, c'est un film. Tout c'est à ma gauche. J'ai pas eu la documentation et je me rappelle plus en quelle année il a été réalisé.
52.
Donc c'était une dizaine d'années après Laura.
Moins que ça.
Oui, un petit peu moins quand même. Hein.
Beaucoup moins que ça. Parce que Laura, le roman de Vera Caspary doit être dans les années 40. Déjà, il faudrait que je revérifie. Là, tu nous prends
parce
au dépourvu.
Parce que c'est... Oui. c'est
Mais viens-en au fait, quand même. Là, tu essayes d'esquiver la discussion, donc viens au sujet du film, s'il te plaît.
Non, mais parce qu'en fait, Laura, Jean Tierney, muse d'Otto Preminger, on le sent venir, le garçon.
Laura, Jean Tierney et Dana Andrews.
Et le mystérieux docteur Corvo aussi, dont on pourrait parler, de Preminger avec Laura. Mm-hmm. Oui, Dana Andrews, oui, bien sûr.
Oui, le même couple, quand même. Mm-hmm. Et... Bon, écoute, moi, j'ai trouvé que c'était... Oui, c'est très bien joué, mais malheureusement, j'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai pas réussi à rentrer dedans parce que j'ai vu l'autre film avant et que...
Alors, on en causera, oui.
Pour info, il est sorti en 1944, Laura.
D'accord. Bravo la documentation. Bravo. Le service documentation de Radio G est nickel chrome. Vraiment nickel chrome.
Checké en direct par nous-mêmes.
Oui. Il y a dans les éléments importants par rapport à ce film-là tout particulièrement, déjà, il faudrait prendre le titre en anglais qui est « Where the sidewalk ends », qu'on peut traduire par « Où s'arrête la transgression ». Enfin, moi, je le traduirais un peu comme ça.
Oui, c'est ça.
Voilà. Et qui n'est pas du tout intéressant dans le titre français, puisque le titre français, c'est que le nom du héros. Donc, ça n'a vraiment aucun intérêt.
Dans la traduction littérale qui est « Là où les trottoirs s'arrêtent ».
Oui. Mais on sait bien que la traduction n'est jamais littérale. Traduire, c'est traduire.
Je dis ça pour les auditeurs qui seraient éventuellement pas anglophones ou anglicistes, pardon.
D'accord.
Oui, et puis si on capillotractait un peu plus, Mark Dixon, détective, en fait, il est inspecteur.
Il n'est pas détective.
Enfin, voilà, en français.
Mais
la confusion peut être énorme.
Ce qu'on notera dans le film, enfin, pour moi, c'est vraiment le film de la soirée. Je le dis comme ça, c'est clair. C'est le film de la soirée. Et on voit bien la relation qui existe entre Otto Preminger et Jean Tierney, puisqu'elle est servie au niveau des cadres, au niveau de la mise en image. Et Otto Preminger utilise même une technique qui d'habitude est utilisée pour les comédiennes beaucoup plus âgées, qui est le voile devant le visage pour atténuer toutes les rides éventuelles et autres, et qui dans tout, est utilisée dans tous les gros plans de Jean Tierney. Tous les gros plans, on voit qu'elle est légèrement voilée. Ça fait presque comme la technique de Photoshop aujourd'hui. Donc il y a voilà, il y a ça dedans. C'est des petits détails bien sûr. Mais moi je trouve que la conscience qu'a Dixon de l'acte qu'il commet, de ses conséquences, la manière dont il essaye de s'en sortir en utilisant l'illégalité la plus complète. Jusqu'à la fin, et on peut pas la révéler la fin, mais jusqu'à la fin, ou même qu'il y ait une fin à double niveau, c'est-à-dire que dans le premier mouvement de la fin, on va se dire peut-être qu'il va être sauvé, et finalement, il trouve une autre façon, beaucoup plus magistral pour quitter l'écran. Et je trouve ça, enfin voilà, moi je trouve que ce film est éblouissant. C'est ça pour moi le film noir américain. Voilà.
Moi je rajoute un truc quand même dont on n'a pas assez parlé, c'est que c'est quand même un des premiers films américains qui parle de violence policière.
Ah oui, ça c'est intéressant, c'est, oui.
On est bien avant l'inspecteur Harry, Dirty Harry, qui va nous expliquer que tous les moyens sont bons pour atteindre un objectif. Là, il y a déjà un constat qui est tous les moyens ne sont pas bons pour atteindre un objectif. Voilà, donc ça, je trouve que c'est très, très intéressant.
Les méthodes de voyous. Et d'ailleurs, à un moment donné, on apprend que Mark Dixon en question, son père était un voyou.
Et on revient à l'idée du déterminisme dont nous parlait Linda dans sa chronique de tout à l'heure.
Ta-ta-ta.
T'as vu retournement. Oui, alors Luc, on pourrait parler des heures de la relation entre Preminger et Jean Tierney.
Oui.
On comprend que t'es amoureux de Jean Tierney, surtout.
Ah, j'y suis pas indifférent, oui, je l'avoue.
Donc,
oui.
Donc nous sommes rivaux. Mais on va...
À quel âge maintenant?
On s'en fiche.
Je crois
que c'est pas ça le problème.
Je crois qu'elle vieillit plus.
Oui, je crois qu'elle a arrêté de vieillir. En fait, elle a arrêté de vieillir.
Voilà. Mais quittons Jean Tierney pour causer d'un autre film, Autopsie d'un meurtre, James Stewart, Lee Remick. Je vais passer la parole à Toups puisque j'ai bien compris que Luc l'avait moins bien aimé celui-là.
Je crois que c'est un des films qui permet de comprendre l'amour inconsidéré qu'ont ces Américains pour ce qu'on a pu appeler la mode des procès.
Le procédural.
Ah, le procédural.
Le prétoire.
Et puis, les gens qui sont procéduriers parce que du coup, ils peuvent avoir des procès. Et c'est un très très beau film, très très bien filmé. Le procès n'est pas du tout casse-pied, ce n'est pas un huis clos.
Est-ce que tu irais jusqu'à dire que pour toi c'est le film de la soirée?
Ah oui, mais il n'y a pas photo. Pour moi c'est le film de la soirée.
Et que on se voit tout
à l'heure. Et en plus, l'avantage que n'a pas Mark Dixon, c'est la musique de Duke Ellington.
Ah oui.
La musique de Duke Ellington qui
on reconnaît bien là ton objectivité.
Ça qui, c'est un coup bas et c'est vil.
Qui enveloppe le film et le film est comme dans un écran grâce à cette musique.
Surtout quand on le retrouve dedans.
Les dialogues sont
dedans.
Finement ciselés. L'intrigue est superbe. Tu peux nous résumer l'intrigue ?
Je peux vous résumer l'intrigue. C'est un tolard. On ne sait pas trop si sa femme aurait été violée. De colère, il aurait tué le violeur. Et après, tout est un jeu de mensonges ou pas entre cet homme qui était l'avocat était procureur, c'est ça,
avant.
Il a été remercié,
oui.
Il se retrouve dans le rôle d'avocat,
oui.
Et donc de l'autre côté avec le rapport avec le nouveau procureur, etc. Et à chaque fois, je chat et la souris, savoir si, qui ment, qui ne ment pas. Et puis, toutes les méthodes viles pour... elle l'avait bien un peu cherché, hélas.
La S.
Parce qu'elle est quand même, elle était habillée en boulant, etc. Donc il y a toutes ces méthodes.
Elle était pieds nus en plus.
Oui, c'est vrai. C'est une sauvage jeune. Effectivement, moi j'ai rejoint Toops par rapport.
Il y a un truc que j'ai adoré, c'est à la fin du film, c'est un film qui te laisse avec presque plus de questions que tu n'en avais au début du film. Parce qu'on se demande quand même, ce lieutenant Mannion, est-ce que c'est vraiment un criminel qu'on va de sang-froid ? Est-ce qu'il est bourreau de sa femme par hasard ? Et puis il se retrouve en liberté quand même.
Attends, t'as dévoilé la fin.
Bah, il faut pas que tu dises.
Non, mais j'ai rien dit. Je l'ai pas dit. Vous n'avez rien entendu. Comme ils disent dans le film, le jury va oublier.
T'es trop fort, les deux pieds dans le plat. J'ai pas cru. Non, mais effectivement, il y a en permanence, à chaque fois qu'on commence à être sûr de quelque chose, c'est démonté. Il y a un autre éclairage sur ce qui se passe quoi. Et moi, le rapport à la musique, effectivement, j'ai adoré. Surtout qu'à un moment donné, on le retrouve vraiment, Duke Ellington. Qui joue à l'intérieur, même quand ça joue.
3 prix pour la musique, meilleure bande son, meilleur disque de l'année, meilleure interprétation d'un orchestre de danse. Oui, je vous rappelle qu'on voit Duke dans le film, qui joue du piano, qui joue avec quatre mains avec James Stewart, dont on ne voit jamais les mains d'ailleurs. Et ça, c'est
Sous-entends que James Stewart jouait pas.
Non, je n'irai pas jusque-là. Ellington a 60 ans à ce moment-là. Et il a encore beaucoup de choses à dire, beaucoup de musique à écrire et à faire entendre.
Non, pour moi, ce film, d'abord, il est d'une longueur...
c'est le reproche qu'on peut lui faire.
D'une longueur trop longue. C'est un film de procès, et le procès américain est cinématographique par définition. C'est-à-dire qu'il n'y a rien à faire. Il suffit de filmer, c'est tout. Donc voilà, on utilise...
Je m'inscris en faux, votre honneur.
Pas grave.
Votre honneur, votre objection, votre honneur. Objection, il suffit pas de filmer parce que
il faut
écrire finalement les dialogues pour qu'il puisse se passer quelque chose, justement.
Luc ne vous a pas interrompu, ne l'interrompez pas.
Objection rejetée.
Tu vas te faire couper le micro.
Laisse parler Luc,
I apologize, your honor.
Donc, Otto Preminger donc, utilise toutes les grosses ficelles. En fait, il met en scène toutes les grosses ficelles qu'on sait des avocats américains. Donc voilà, ça n'a pas... Pour moi, ça ne m'intéresse pas. Le personnage intéressant, c'est bien évidemment le personnage de Ben Gazzara, plus que le personnage de James Stewart. Ben Gazzara qui porte la fourberie sur son visage dès le départ, dont on sait qu'il va arnaquer... qu'il arnaquera de toute façon à la fin. Pas surprise. Il le porte dans ses yeux.
Procès
d'intention.
Ah, carrément, là.
Il le porte dans ses yeux. Et je reverrai volontiers le film, bien qu'il soit trop long à mon goût. Je verrai volontiers le film. Je suis sûr que les plans dans lesquels il est filmé sous-entendent ce qui va se dérouler à la fin, que moi, je ne dévoile pas Monsieur Toops.
Mais je n'ai pas dévoilé le film. Ça, ce n'est pas le centre du film, c'est le synopsis.
Et donc... ce qu'on peut lui opposer, bien entendu, c'est comment s'appelle ce film de Sidney Lumet, ça y est, j'ai oublié, de 57. Il y a d'autres films, à mon avis, 12 hommes en colère. 12 hommes en colère. Il y a 12 hommes en colère qui restent, à mon avis, qu'on peut mettre face à face. C'est pas du tout la même chose, mais c'est quand même des films de procès. Et je pense que Sidney Lumet, avec une heure de moins, s'en sort deux fois mieux.
Oui, alors, pour pondérer un peu tout ça, quand même...
Oui, c'est ça. Modère, Julien, il faut modérer.
Non. Très bonne interprétation d'Henri Fonda dans le film de Sidney Lumet. On pourrait y revenir. Comment est-ce qu'on réussit à retourner 12 jurés qui sont convaincus d'une culpabilité.
Excellente interprétation de James Stewart, également.
Là, franchement, James Stewart, pour moi, il survole le film. Enfin, il est monstrueux, mais comme il est monstrueux dans tous les films, en fait. Je ne sais pas s'il existe un film où James Stewart n'est pas bon. Il faudrait qu'on en...
Joker.
Joker, ici. non, moi, ce que je trouve que les Américains réussissent, et là, Otto Preminger, plus particulièrement avec ce film, c'est qu'on hésite entre le screwball comédie, c'est-à-dire on est dans du burlesque, parce que James Stewart, il faut savoir, on ne l'a pas dit, c'est un avocat qui a pour prétention de pouvoir pêcher à la mouche tranquillement. D'ailleurs, son frigo en est plein. Il est ivrogne, il joue très bien les ivrognes. Les Américains adorent les ivrognes. On pourrait parler de Cat Ballou, où Lee Marvin a un rôle extraordinaire. Et c'est un film noir. C'est à la fois de la screwball comedy et un film noir, et il trouve cet équilibre. Je suis d'accord avec toi, il est trop long, je suis trop long.
Ah, moi je peux
donc
trouver ça
on
trop
va
long, moi.
Passer la musique maintenant, s'il vous plaît, et un peu de silence.
Il n'est pas trop long. J'ai pas senti les 2h40 passer.
T'as jamais vu une femme qui se bat? Suis-moi dans la ville blafarde et je te montrerai comme je mords, comme j'aboie. Prends garde sous mon sang là.
La grenade, interprétée par Clara Luciani. Alors vite, dégoupillons-la, cette sainte grenade d'Antioche, et intéressons-nous à la puissance et la gloire de Graham Greene. Dieu est mort. Oui, je sais, c'est une affirmation bien péremptoire, et je n'ai aucune preuve de sa mort. Remarquez bien que si je vous avais affirmé qu'il était toujours vivant, je n'aurais pas eu plus de preuves.
Non.
Dieu est mort, c'est le film que John Ford a fait d'après le roman de Graham Greene. Vous savez, Graham Greene, The Human Factor, merveilleuse adaptation d'Otto Preminger, dans laquelle, parmi les très bons acteurs so-british, on dénombre l'incommensurable Robert Morley. Robert Morley est vraiment un acteur, d'abord un acteur de théâtre, mais incommensurable, et par la taille, les dimensions, et par son jeu. Moi, je suis un fan inconditionnel. Dans une de ses rééditions de La puissance et la gloire, l'auteur anglais, Graham Greene, note « Il paraît que John Ford a adapté mon roman. » je me suis dit, hein, comment il se la joue, tout ça. Eh bien, figurez-vous que cette affirmation me semble plus difficile à prouver encore que les deux dont j'ai parlé plus haut.
Ah bon ?
Pourquoi ? Parce que le film, très bon au demeurant, avec un Henri Fonda impeccable et une Dolores Del Rio sous-exploitée, suit très en filigrane une intrigue épurée avec beaucoup moins de personnages, mélangeant les scènes d'importance, détricotant des relations pour en ajouter d'autres qui forment un patchwork pas inintéressant, mais traîtreusement traître. Le film est bon, mais John Ford s'appuie sur un parti pris, celui de la religion, de son importance, voire de ses bienfaits, et multiplie les images pieuses avec une Dolores Del Rio, à la fois vierge à l'enfant et Marie-Madeleine.
Mais pourquoi tu dis « mais » Bon. Mais il utilise.
Parce que c'est, tout ça, c'est un peu plâtré avec beaucoup de lumière qui filtre d'un peu partout pour mieux auréoler Henri Fonda, qui lui a le beau rôle. Tout ça alors que Graham Greene, si tu veux, en bon romancier, nous fait découvrir des personnages. Et quel personnage ? Enfin, vous l'imaginez, vous, Henri Fonda, en prêtre ventripotent, lâche, imbibé d'alcool, orgueilleux, un peu libidineux, et prêtre papa d'une gamine légèrement dégénérée ou asociale ?
Ben, c'est un comédien.
J'allais faire la même réponse, Toups.
Oui, mais il n'a pas tout ça dans le film.
C'est ça le problème. c'est que ça, c'est dans le livre.
Le problème, c'est que ça, c'est dans le livre. Dans le film, il n'a pas ça, tu vois. Quand il va chercher une bouteille de vin, c'est pour faire le vin de la messe. Alors que dans le livre, quand il va chercher une bouteille de vin, c'est parce qu'il est en manque.
Bah oui, mais c'est parce que le film, il y a un réalisateur, mais il y a un producteur.
Et...
Le producteur, il prend Henri Fonda pour un certain profil qu'il a envie de montrer parce que ça, c'est bankable. Et...
Bankable, qu'est-ce que c'est moche.
Comme oui, c'est vrai, c'est moche. En plus, c'est récent comme mot, mais ça existe depuis le début du cinéma.
Ouais, bon, on est mal barré, je suis totalement perdu dans mes pages.
Et tu l'as complètement déprimé, voilà.
Mais non, il m'a pas déprimé, le tout, parce qu'en fait, ce qu'il me dit, moi je le savais déjà, en fait, je fais semblant de pas le savoir ou de m'offusquer, enfin, toi, comme tout bon français qui se respecte. Donc, c'est tout le problème d'un film qui est somme toute consensuel dans son approche. Il ne faut pas heurter le public américain qui peut être très vite choqué.
Le pauvre.
Et en plus, on comprend du coup pourquoi ce film il a été tourné au Mexique. Ben pourquoi ? Parce que d'un autre côté, lorsque le roman a été écrit par Graham Greene, l'action se déroule dans un état du Mexique sur fond de dictature et d'épuration religieuse matinée de prohibition. Graham Greene himself s'est retrouvé au cœur d'un incident diplomatique entre le Mexique et le Royaume-Uni et qu'il a été déclaré persona non grata. Voilà. Et donc là, tout d'un coup, le Mexique accepte de que cette adaptation soit tournée au Mexique. On peut se demander, bon sang, mais pourquoi ? Eh bien, évidemment, parce qu'on a retiré toute la substantifique moelle de cette intrigue. Voilà. Regardez le film. C'est un très bon film, avec quelques messages messianiques imposés de manière pas très légère, on en a parlé. C'est une très mauvaise adaptation. Surtout, lisez le roman qui est, lui, un très bon roman, universel, humaniste, critique, sur notre société avec des personnages qui vivent en marge. Parmi ceux-ci, le lieutenant de police, impeccable dans sa tenue et qui souffre des dents, à tel point que je me suis demandé s'il n'était pas à l'origine du colonel Gunther Gutierrez Reza. Ça vous cause le colonel Gunther Gutierrez Reza ? Luc, toi qui as une culture sans fond.
Oui, mais qui ressemble à une passoire des fois. Hein.
Ah, c'est ce lieutenant, tu sais, dans Il était une fois la Révolution, qui se brosse tout le temps les dents dans son train.
D'accord.
Voilà, il était interprété par Antoine Saint-John, c'est à peu près le seul rôle qu'il a eu. Voilà, donc j'ai pensé à lui parce qu'il aurait croisé aussi notre lieutenant issu du film de John Ford, une espèce de centurion nazi avec brassard. Il faudrait lire ou relire Graham Greene en fait. Surtout ses romans d'espionnage comme The Human Factor, au moins aussi fort que L'espion qui venait du froid. L'auteur, il a un talent fou et ça tombe bien car il y a au moins deux personnes qu'il aime dans le monde de l'édition. Une chez Robert Laffont pour la collection Pavillon puisqu'elle y republie ses romans. Une autre à la Table Ronde pour La Petite Vermillon puisqu'elle y reconsigne ses récits. Mais il ne peut être question d'espionnage et de noirceur sans jazz. Et le jazz, c'est maintenant et c'est avec Toups.
Et
alors, Toups, comment ça jazz ?
Ça jazz très fort. Ça jazz très fort. J'ai envie de vous poser une question qui je ne sais pas, c'est une question nature, on va dire. Qu'est-ce qu'évoque pour vous le mot jungle ?
The Asphalt Jungle.
The Asphalt Jungle.
Le livre de la jungle.
Le livre, oui. Le Jungle
Alors
Book,
là,
oui.
Moi, je me suis complètement fourvoyée parce que tu nous avais posé la question par écrit et j'ai commencé à réfléchir sur la jungle.
Eh ben oui, et alors
Jungle Bells.
Eh ben moi, je suis partie sur la nature, les arbres, la luxuriance.
Eh ben on va écouter un peu de ce que je voulais dire. C'est un style de musique qui est né en Angleterre. Au début des années 90. Ça, c'est un extrait d'un album fabuleux d'un certain Goldie qui s'appelle Timeless. Le principe, c'est la démultiplication des rythmes, la vitesse du tempo. Comment c'est possible par une batterie? Et puis, ça c'est exactement le même tempo, c'est 2 ans avant, c'est du jazz, c'est exactement le même principe, sauf que là c'est joué par un batteur. Je peux vous dire qu'il vaut mieux être très bon batteur pour arriver à faire ça.
Faut être un batteur battant.
Alors, bon, je vous donne tout de suite la clé. Il faut savoir compter pour arriver à comprendre. Là c'est pas une valse, c'est pas une polka, donc c'est une mesure qui fait... 3 mesures de 6, une mesure de 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. C'est un peu comme quand on veut écouter du Luciano Berio, du Ligeti, ou du Bouliez, ou même du Wagner. Il faut avoir les codes, tout simplement. Il faut... Pour arriver à comprendre et apprécier ce qu'on entend, c'est pas de la musique de consommation courante.
Il y a un reproche derrière tout ça ?
Non, pas du tout. Non, c'est juste que en fait tout ça, ça fait penser à la jungle, mais le style jungle a été inventé par Duke Ellington et ça n'a aucun rapport avec ça. Ça n'a juste aucun rapport avec ça. Ça s'appelait jungle, c'était dans les années 30, fin des années 20 d'ailleurs. Au Cotton Club, il a inventé un style qu'on a appelé jungle. D'ailleurs, on va écouter un morceau qui s'appelle Rocking in Rhythm. C'est celui-là.
C'est celui que tu m'as passé. Hein.
Ah non.
Ah si.
Ah non.
Ah non, ça va durer longtemps. En fait,
oui. Hein.
Ah ben alors, écoutez, on l'écoutera une autre fois alors.
Là, c'est quoi ça?
Je ne sais pas. Moi, je ne sais même pas ce que c'est.
Mais c'est le... Alors, chers auditeurs, il faut bien vous expliquer qu'en fait, une émission radio, ça se prépare et qu'on a des morceaux qui nous arrivent par ce qu'on appelle des voix internautiennes. Ouais. Et tout d'un coup, on reçoit
des... Qui sont des fois impénétrables.
Et qui sont souvent impénétrables. Ah et donc, on reçoit un morceau par mail avec un destinataire qui, là, bon, s'appelle Toups. Et on se dit, tiens, ben voilà, c'est son morceau, il veut qu'on mette ça, donc je le mets.
Non, mais après, ça fera une occasion supplémentaire de parler de Duke Ellington.
Ah, on va être obligé de reparler de Duke Ellington.
Non, c'est dommage.
On reconnaît bien là ta fourberie.
Je suis démasqué.
Espèce de scapin.
Bon, t'avais mais autre chose à rajouter.
C'est pas grave, tu voulais parler de la jungle. Nous, on avait dit Asphalt Jungle,
Oui, mais je voulais vous faire entendre le style jungle je peux pas dire ce que c'est. Une utilisation de la sourdine et du wah-wah sur les trompettes et les trombones qui n'avaient jamais été créés avant. Donc c'est Ellington qui a trouvé ça.
C'est comme ça qu'il y a ce son là.
C'est fameux. Waouh 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 waouh.
Ah ouais, ça j'aime bien ça.
Voilà, c'est le style jungle.
Ah ouais, en général, t'as envie de boire un cocktail ou un truc comme ça.
Mais depuis que tu nous parles de tes films qui se passent au Mexique, moi depuis tout à l'heure avec des romans policiers et tout ça, je me dis, j'hésite entre le whisky, la tequila et
un bon Robert Mitchum.
Le mezcal. Alors,
juste avant le feuilleton.
Oui. Qu'on va envoyer incessamment sous peu.
Voilà,
hein.
Ouais. Alors, concentrez-vous pour essayer de détecter le rapport de tout à l'heure quand on vous a dit le thème avec What Else. Je ne vous en dis pas plus.
Et donc, feuilleton.
Café, oui, bah.
Renifleur & Co. Mise en scène de Linda Gonin avec Laure Gélin, Toups Bébé et Linda Gonin. Voix du générique, Elouane.
Nous sommes dans le cabinet d'avocat Renouflard Renko. La secrétaire, Mademoiselle Fossette, est très occupée.
Cabinet des avocats Reniflar & Co. Bonjour mon chéri. Je pensais justement à toi. Pas maintenant, mon patron. Monsieur Reniflar vient d'arriver. Bonjour, monsieur Reniflar.
Bonjour. Bonjour. La pluie perce mon manteau. La proprio me perce les oreilles. Ma femme est en panier percé. Et le chien du gardien m'a percé. Et vous appelez ça un bonjour? Mademoiselle Fossette, vous êtes de nouveau arrivée en retard ce matin. Où étiez-vous la nuit dernière?
La nuit dernière? Mais avec vous?
Avec moi? Avec moi? Moi? Avec moi? Avec moi? Mademoiselle Fossette, vous avez tort de mélanger le travail et le plaisir.
Mais, monsieur Reniflar, je...
Oh, je sais ce que vous allez dire. Que ce n'était pas pour le plaisir. Eh bien, moi non plus. Je ne me suis pas amusé.
Mais c'est vous qui m'avez invité à sortir.
Ah oui? C'est prouvé, ça? Je ne me souviens plus. Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Qu'avons-nous à régler aujourd'hui? À part des dettes. Qu'y a-t-il au programme de cet après-midi?
Vous savez que vous avez un dossier incomplet.
Bah évidemment, j'ai des dessous et incomplet. Vous ne vous attendez tout de même pas à me voir arriver en chemise de nuit, hein? Chemise de nuit. Bon, où est l'assistant que j'ai engagé la semaine dernière?
Monsieur Ravelli, il vient de téléphoner.
Il vient de téléphoner. Je croyais lui avoir dit d'aller chasser les ambulances. Comment va-t-il me dénicher des clients s'il ne trouve pas d'accident? Qu'est-ce qu'il voulait?
Il a dit qu'il venait vous voir.
Ah, il vient me voir. Il ne me trouve pas assez bien pour me recevoir chez lui. Ou peut-être a-t-il honte de l'endroit où il vit? Où habite-t-il?
Depuis que vous l'avez engagé, ici, au bureau.
Ah, vraiment? Étonnant qu'il ait honte. Vous lui direz de dormir dans le couloir ce soir. J'ai du monde à dîner. Des rendez-vous aujourd'hui?
Non, monsieur Reniflar, pas le moindre rendez-vous.
Eh bien, donnez-moi un. Vous ne voudriez pas que je reste toute la journée à me tourner les pouces, non? Je me sentirais bien trop seul. Allez-y, faites-moi des propositions. Mademoiselle Fossette, descendez de mes genoux et voyez qui frappe à la porte.
C'est probablement Madame Rupin, la propriétaire, qui vient vous voir à propos du loyer. Elle réclame son argent.
Dites-lui d'aller chez la voisine.
D'aller chez la voisine.
Y'a pas de ça chez nous.
Y'a pas de ça chez nous.
Et ce n'est pas pour nous.
Et ce n'est pas pour nous.
Elle est venue 5 fois pendant votre absence.
Ma
C'est elle ?
Oui, c'est Madame Repin.
Faites-la entrer, je vais lui parler.
À suivre.
Toujours Radio G sur le 101.5 FM. Calibre 58 vous invite à découvrir ce nouvel épisode de votre feuilleton radiophonique Renifler & Co. Et on a compris le rapport avec What Else, enfin je pense, non ?
Bah je sais pas, vas-y, dis.
La petite musique.
La petite musique pendant l'instant charme du feuilleton.
Oui, et alors, écoutez, je suis désolé, là, je suis déconnecté.
Mais non, c'est que tout à l'heure, il n'arrêtait pas de dire What Else, oui, sans parler
oui,
du
oui.
café.
Ça, j'ai bien compris. Ouais. Mais cette musique est donc une musique qui de fait du café.
Ah bah Toups, interviens, s'il te plaît.
Ah, pourquoi j'interviendrai ?
Bah c'est Georges.
Oui, George Clooney, ça, oui. Tout ça je connecte. Ouais. Mais donc cette musique,
c'est la musique de la pub.
D'accord,
en fait.
D'accord, c'est la musique de la pub. Ah, c'était torride. C'était torride.
Ah, c'est
moi,
ça,
je pense, enfin, Julien, moi, j'attire torride. Ton attention sur le fait que ce genre de feuilleton devrait être quand même programmé plus tard dans la soirée parce que c'est vraiment torride.
Et ben, c'est tellement torride qu'on est proche de la torréfaction d'ailleurs.
Oui, c'est
je ne sais pas quelles sont les relations entre les comédiens, je ne sais pas ce qu'ils font pendant qu'ils enregistrent ce feuilleton, mais j'ai des lourdes inquiétudes. En tout cas, au niveau du budget de production, il va falloir revoir les choses. Hein.
Bah, moi, j'ai l'impression que c'est de plus en plus torride à chaque épisode qui passe. Donc, c'est pour que les auditeurs reviennent plus nombreux la prochaine fois.
D'accord. Donc, donc, on fait du teasing, quoi, si
oui,
j'ai bien compris.
Oui, on fait du teasing. En parlant de teasing, je vais venir sur quelques brèves et commencer donc par du teasing, puisque le numéro 201 du fanzine La Tête en Noir vient de paraître.
Excellent numéro.
Mais que mon petit doigt me dit que j'en cause dans une autre émission demain.
J'ai cru entendre dire que des consignes avaient été données pour qu'une chronique soit faite pendant l'émission Entre les pages. Donc j'espère que tu nous réserves, l'exclusivité.
Non, la primeur.
La primeur. La primeur.
Après, l'originalité.
Non, l'exclusivité. Je demande l'exclusivité.
D'accord.
Bon, alors.
Vous demandez beaucoup, monsieur, mais vous l'aurez. Parce que je suis un très mauvais négociateur. On a beaucoup parlé cinéma aujourd'hui, alors continuons. Si vous avez accès à la plateforme Netflix pour une durée de 3h40, alors profitez-en pour regarder The Irishman de Martin Scorsese avec plein de bons acteurs vieillissants.
On peut toujours faire plus long, hein.
Voilà, non, mais là franchement, c'est vraiment du bon. Demain à 19h à la bibliothèque d'Ingrande de Fresnes-sur-Loire, notre bibliothèque préférée.
Ouais.
C'est Mercredi Polar et ce sera autour des éditions Rivage. À noter que du 8 au 10 janvier 2020, mais on en reparlera, la commune d'Ingrande de Fresnes-sur-Loire déroulera quelques tapis rouges pour présenter les différentes catégories du prix SNCF Polar, à savoir BD, romans et courts-métrages en partenariat avec le cinéma d'art et d'essai de Saint-Charles. Voilà, beaucoup de surprises, réservez vos soirées. On vous laisse avec un monde de caresses. La semaine prochaine, place à nos amis imaginaires. Au revoir.
Au revoir.
Adios, muchachos.
Si.
Bonsoir.
Y muchachas.
101.5 FM.